Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction, présenté par Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Maïlys Bessery, bonjour à toutes et à tous. Dans ce journal, nous reviendrons sur la mort de Steve Maya Canisso et plus précisément sur la façon dont le gouvernement gère cette affaire devenue affaire d'État, analyse à venir de Rosalie Lafarge. Nous reviendrons également sur la décision du tribunal de Tours de faire retirer ou de ne pas autoriser à installer des compteurs Linky d'Enedis dans plusieurs foyers de personnes électrosensibles. Boris Johnson est en Irlande du Nord où il continue sa tournée des nations du Royaume-Uni. Il va aborder le point qui fâche, la frontière entre les deux Irlandes. Et son devenir après le Brexit, nous dira Élise Delève. En Allemagne, le Dieselgate éclabousse à présent le groupe Audi. Son ancien patron, Rupert Stadler, est renvoyé devant le tribunal pour fraude. Et puis 75 ans après la mort d'Antoine de Saint-Exupéry, nous verrons comment son œuvre concentrait déjà l'essence de l'Europe et ses ambiguïtés avec le spécialiste Franck Guéry. Après ce journal, au menu de la grande table, Maïlys.
Ce sera les cicatrices du franquisme en Espagne à l'occasion de la sortie DVD du film documentaire Le silence des autres. Et puis nous ferons le portrait de l'auteur de BD, Laurel.
À tout à l'heure. L'affaire a désormais viré aux politiques. Au-delà des questions qui se posent encore sur la gestion policière de la soirée pendant laquelle a disparu Steve à Nantes au petit matin du 22 juin dernier, la position de Matignon dans cette affaire et les réactions virulentes de plusieurs élus de l'opposition qui mettent en doute les conclusions de l'IGPN ont donné à ce drame des allures d'affaire d'État. Il n'y aura pas de justice rendue qu'on se le tienne pour dit, a déclaré ce matin le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. La porte-parole de Europe Écologie Les Verts, Sandra Rigol, dénonce pour sa part le, je cite, « mépris du gouvernement dans sa réaction à la mort de Steve Maya Canisso ». Au Rassemblement National, on fustige l'amateurisme du gouvernement et du Premier ministre. On rappelle qu'Édouard Philippe a promis hier de faire toute la lumière sur la mort de Steve, tout en soulignant que le rapport de la police des polices sur les événements n'établissait aucun lien entre l'intervention des forces de l'ordre justifié selon l'IGPN et sa noyade. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Dans cette affaire, il semble que Matignon cherche à orienter les responsabilités vers les autorités nantaises.
Oui, le gouvernement le reconnaît. À l'issue de l'enquête de l'IGPN, le déroulement de la soirée reste confus et des questions se posent encore, insiste Édouard Philippe.
Dans quelles conditions des sound systems ont-ils pu être installés sur certaines parties des quais de la Loire, ne disposant ni de garde-corps, ni de barriérage ? Compte tenu de la proximité immédiate de la Loire et du risque de chute dans le fleuve, les mesures préventives étaient-elles adaptées et proportionnées ?
Et pour répondre à ces questions, le Premier ministre a saisi l'Inspection Générale de l'Administration, un organe rattaché au ministère de l'Intérieur, à qui l'on demande d'examiner, entre autres, les circuits d'information et de décision entre les services de l'État et de la ville de Nantes, entre finalement la préfecture et la mairie.
Et cela fait bondir l'opposition, Rosalie.
Oui, Yann Brossat, le porte-parole du Parti communiste, dénonce la stratégie cynique du gouvernement.
Il essaye de trouver d'autres responsables, d'autres boucs émissaires. Sauf que la réalité quand même, à un moment donné, il faut la regarder. S'il n'y avait pas eu cette intervention policière, Steve ne se serait pas retrouvé dans la Loire. Donc je trouve cette stratégie assez curieuse et pas très digne.
Pas très digne non plus le ministre de l'Intérieur. Ça, c'est l'avis du Rassemblement National et de son porte-parole, Sébastien Chenu.
Il y a un moment où nous demanderons à Christophe Castaner de nous expliquer quelles sont ses doctrines en matière de maintien de l'ordre, car notre pays est quand même secoué gravement depuis quelque temps et on a le sentiment d'un ministre de l'Intérieur qui est allé un peu à l'aveuglette sur tous ces sujets-là durant les derniers mois.
L'heure n'est pas à la polémique mais à la recherche de la vérité pour la maire socialiste de Nantes. Sur les réseaux sociaux, Johanna Roland juge troublant et inquiétant le fait que l'IGPN ne soit toujours pas en mesure de dire exactement ce qui s'est passé ce soir-là, après maintenant 5 semaines d'enquête.
Merci beaucoup Rosalie Lafarge. Le planning familial durement touché par les baisses de subventions en Rhône-Alpes-Auvergne, notamment plusieurs antennes départementales s'alertent de cette baisse jusqu'à 30% parfois des moyens alloués pour faire fonctionner les structures. Une information de nos collègues de France Inter, des subventions qui finançaient notamment des actions de prévention et d'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires et les centres d'hébergement pour personnes en situation de handicap. C'est une victoire juridique pour tous les opposants au nouveau compteur électrique d'Enedis, les compteurs Linky. Le tribunal de grande instance de Tours a demandé le retrait pour raison médicale de ce compteur chez un particulier et il ne sera pas installé dans 8 autres foyers qu'il avait saisis également. 108 autres recours ont été rejetés. Les personnes pour lesquelles le tribunal a autorisé le retrait donc sont électrosensible. Bonjour Maxime Fayolle.
Bonjour.
Une victoire pour les personnes qui souffrent de cette pathologie.
Et ce n'est pas la première fois que la justice prend une telle décision. Quatrième condamnation pour Enedis face à des personnes qui souffrent d'électro-hypersensibilité. Le compteur Linky émet des ondes électromagnétiques qui ont des conséquences et des preuves ont été fournies, précise l'avocat des plaignants, maître Arnaud Durand.
Compte tenu des analyses médicales qui ont été produites, qui montrent que chez ces personnes, on a des marqueurs sanguins, des marqueurs inflammatoires qui augmentent lorsqu'elles sont exposées à ces nouveaux courants porteurs en ligne, on a un tribunal qui a reconnu, et je cite, un lien de causalité directe entre la pose du Linky et les pathologies subies par les demandeurs. Et donc on a une décision qui est extrêmement claire et qui reconnaît ce qu'on appelle, nous les juristes, un dommage corporel imminent.
Enedis, de son côté, précise que ses compteurs sont inoffensifs. L'entreprise reconnaît la souffrance de ses consommateurs mais conteste ce lien de causalité. Le champ électromagnétique du Linky est relativement faible, rappelle Enedis, qui se base sur plusieurs études. Un argument qui ne peut pas s'appliquer aux personnes électrosensibles pour Maître Durand. Enedis doit changer de stratégie.
Ce serait bien qu'effectivement, Enedis passe sur un stade bienveillant plutôt que d'être sur la défensive et plutôt que de prendre les 10 meilleurs cabinets industriels français d'avocats pour se défendre et d'investir des millions d'euros avec l'argent des usagers dans sa défense, plutôt qu'elle envisage de respecter la santé des usagers.
Et si cette décision est une victoire pour l'avocat sur le plan médical, les juges ont refusé de statuer sur une autre question, celle de la violation de la vie privée par ces compteurs qui transmettent des informations personnelles. 108 personnes ont été déboutées hier, c'était le cas aussi de 250 autres à Évry il y a deux semaines.
Maxime. Maxime Fayolle, merci. Un violent incendie est en train d'être fixé dans le Gard. Il a débuté hier et ravagé 488 hectares. 130 maisons ont dû être évacuées. Le département est touché par une sécheresse particulièrement longue et une intensité record de température qui ont avoisiné les 46 degrés fin juin. Il s'est fait chahuter en Écosse, critiqué par les fermiers, notamment du Pays de Galles, et il arrive en Irlande du Nord aujourd'hui. Boris Johnson, le Premier ministre anglais, tente d'apaiser les inquiétudes sur le Brexit dans les différentes nations du Royaume-Uni. Et rien n'est gagné, c'est le moins qu'on puisse dire, car l'Irlande du Nord, justement, concentre le point de crispation de la procédure de Brexit, la frontière de 500 km qui sépare l'Irlande du Nord de la République d'Irlande. Bonjour, Élise Delève.
Bonjour.
Les craintes portent des deux côtés de la frontière sur un possible retour d'une frontière physique.
Et oui, l'Irlande du Nord est au cœur de l'impasse du Brexit. Personne ne veut d'un retour d'une frontière physique entre les deux Irlandes, ni l'Europe, ni Boris Johnson. Le Premier ministre a assuré hier qu'il ne remettrait jamais de contrôle physique ou d'infrastructure comme des barrières. Ce retour à une frontière fragiliserait les accords de paix du vendredi saint de 1998, accords qui ont mis fin à 30 ans de conflits armés entre nationalistes et unionistes en Irlande du Nord. Mais la solution proposée par Bruxelles, le fameux backstop ou filet de sécurité, est clairement rejeté par Boris Johnson. Le backstop est mort pour le Premier ministre britannique, même en cas de Brexit sans accord. En affichant fermement ce refus, il se plie aux exigences du DUP, le parti unioniste nord-irlandais, qui lui assure une courte majorité au Parlement britannique. Lors de ce déplacement à Belfast, Boris Johnson doit satisfaire ses partenaires, mais aussi rassurer les autres partis. Le Sinn Féin, parti nationaliste contre le Brexit, se dit furieux. L'Irlande du Nord est prise en otage. 56% des habitants ont voté pour rester dans l'Union européenne en 2016. Alors la réponse de la chef du Sinn Féin, Mary Lou MacDonald, hier, un appel à préparer un référendum sur l'union des deux Irlandes, une option que ne rejette pas Leo Varadkar, le Premier ministre de République d'Irlande. Boris Johnson voulait, avec cette tournée, promouvoir l'union du Royaume-Uni, que ce soit en Écosse, au Pays de Galles ou en Irlande, il a plutôt poussé à la désunion.
Merci Élise Delève. Les chiffres de la croissance dans la zone euro sont tombés ce matin. Croissance qui a ralenti au deuxième trimestre, tout comme l'inflation. Des résultats médiocres compensés par la baisse du chômage en Europe au mois de juin. Il est au plus bas depuis 11 ans à 7,5%. Des chiffres conformes aux analyses. Les têtes continuent de tomber en Allemagne après le scandale du Dieselgate, la falsification des résultats des émissions polluantes pour les moteurs diesel des voitures du groupe Volkswagen. On apprenait ce matin donc que l'ancien patron de la marque Audi et trois autres personnes étaient poursuivies par le parquet de Munich pour leur rôle dans cette affaire. Rupert Stadler a été inculpé pour avoir contribué à l'homologation indue de véhicules trop polluants et puis pour pratiques commerciales trompeuses. À Berlin, les précisions de Nathalie Versieux.
Le procureur de Munich est convaincu que Rupert Stadler, alors qu'il avait déjà eu connaissance du scandale au plus tard en septembre 2015, a continué à écouler 434 000 voitures diesel en Europe et aux États-Unis. Les trois ingénieurs sont pour leur part accusés d'avoir développé les moteurs Audi, Volkswagen et Porsche incriminés. Stadler risque 10 ans de prison en cas de procès. L'opinion allemande suit avec stupeur l'évolution du scandale des moteurs diesel truqué, alors que le patron du groupe, l'omnipotent Martin Winterkorn, n'a lui jamais été inquiété. Il touche même sa pension de retraite maison de plus de 3 000 euros par jour. La stratégie de défense du groupe fait scandale en Allemagne. Volkswagen, qui n'a jamais entamé aucune démarche contre son ancienne direction, a licencié plusieurs ingénieurs rendus responsables du scandale.
Israël a autorisé la construction de logements palestiniens en Cisjordanie occupée. Une autorisation déséquilibrée, certes, puisqu'elle permet la construction de 700 logements pour les Palestiniens et de 6000 pour les colons israéliens. Mais cela peut être considéré comme un effort diplomatique avant l'arrivée prévue de Jared Kushner, gendre et conseiller de Donald Trump pour cette partie du monde. En Espagne, c'est une libération qui suscite à la fois la joie et la colère. Les prisonniers de l'ETA, libérés ces derniers jours au Pays basque espagnol, ont été accueillis sous les vivas et les bravos dans leurs villages respectifs. Ils sont pourtant considérés comme des terroristes par les autorités espagnoles et une grande partie de la population. C'est le signe en tout cas que plus de 7 ans après l'abandon définitif de la violence par ETA et plus d'1 an après la dissolution du groupe, les blessures ouvertes par l'armée de libération basque sont encore loin d'être refermées. Le récit du correspondant de France Culture en Espagne, Mathieu de Taillac.
Il passe accompagné de ses proches au milieu d'une haie d'honneur. Applaudissements, feux de Bengale, pancartes de bienvenue. Xavier Ugarte est reçu comme un héros dans sa commune d'Oñate au Pays basque espagnol. Difficile de comprendre quand on sait que cet homme vient de purger une peine de 22 ans de prison, notamment pour 2 enlèvements et un attentat dans lequel sont morts 2 gardes civils. Le parquet vient d'ouvrir une enquête pour apologie du terrorisme. Les preuves sont rares, les militants se gardant bien de lancer des vivas à l'ETA. Ces cérémonies, que l'on appelle des ongi et tori, bienvenues en basque, sont très habituelles. 130 ont eu lieu depuis 2016. Elles suscitent la condamnation de toutes les forces politiques, à l'exception de la gauche indépendantiste basque. Cette fois-ci, l'affaire est utilisée contre Pedro Sanchez parce que, dans la Navarre voisine, les socialistes bénéficient de l'abstention de cette même gauche indépendantiste.
C'était il y a 75 ans, le 31 juillet 1944, l'auteur du Petit Prince, de Vol de Nuit ou encore de Courrier Sud, Antoine de Saint-Exupéry, disparaissait au large de Marseille aux commandes de son avion. Aujourd'hui, son influence en tant qu'écrivain reste immense. Le Petit Prince reste l'un des livres les plus lus au monde. Franck Guéry est enseignant à Sciences Po en questions européennes et auteur d'un livre intitulé Le Voyage d'Erasme qui revisite l'histoire européenne en rendant hommage au style du Petit Prince. Pour lui, Antoine de Saint-Exupéry est un beau symbole européen qui a anticipé de très nombreuses questions qui se posent aujourd'hui. Écoutez-le, interrogé par Ilan Malka.
Le personnage qui a inspiré le Petit Prince, c'était Pierre Sudreau. Et ce Pierre Sudreau a été résistant, a été déporté, était président du mouvement européen, autre idéal qu'il animait. Donc en fait, le Petit Prince a été résistant, déporté et pro-européen. Donc ça montre toute l'ambivalence de l'Europe, à la fois du meilleur et du pire. Antoine de Saint-Exupéry a rencontré Jean Monnet pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il lui disait « le plus beau métier d'homme est le métier d'unir des hommes ». Donc je trouvais là une correspondance entre le projet européen et la forme qu'avait trouvé Saint-Exupéry, notamment avec le Petit Prince.
Il y a quelque chose de visionnaire, vous diriez, chez Antoine de Saint-Exupéry ?
Lorsqu'il dit « nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous empruntons celle de nos enfants », ça résonne aujourd'hui avec une sonorité particulière quand on voit le défi auquel on a à faire face avec le changement climatique. Donc finalement, il a su à la fois questionner l'humanité de façon simple et à la fois donner des perspectives. Et c'est peut-être aussi ça qu'il nous faut aujourd'hui, c'est retrouver le sens d'un idéal pour se mobiliser, pour être à la hauteur de notre humanité. On voit qu'on a beaucoup de défis devant nous, on voit aussi que c'est parfois des enfants qui nous donnent des leçons, comme Greta Thunberg dans l'actualité aujourd'hui. Donc c'est intéressant de voir comment il a su, par son expérience, nous apporter de façon simple un message qui reste profondément humaniste.
Le spécialiste des questions européennes, Franck Guéry. Le temps de ce mercredi après-midi, grisaille tenace sur le nord-ouest. Ciel variable au nord d'une ligne Paris-Metz-La Rochelle est bien dégagé au sud. Les températures cet après-midi comptaient entre 20 et 27 degrés du nord au sud. Ce journal a été préparé
préparée avec Benjamin Ducy. Je vous retrouve à 18h.